Histoire, actualité, comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité des documentaires d'histoire, actualité de mai 68. En tout début de cette émission, nous vous parlerons avec l'historien Éric Ménard de la nouvelle série d'Arte, Les routes de l'esclavage, qui sera diffusée sur Arte le 1er mai, une plongée dans la longue histoire de l'esclavage depuis le 5e siècle de notre ère jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, avec deux invités, nous évoquerons les avant-gardes culturelles de mai 68. Nous recevrons d'abord Boris Gobi, qui a coordonné avec Christelle Dormoy, Raj Ramanan et avec Éric Neveu, mai 68, par celles et ceux qui l'ont vécu aux éditions de l'Atelier. Il viendra nous parler particulièrement du mai 68 des écrivains, publié au CNRS édition, pour comprendre justement, en conclusion de cette série, comment les mouvements de mai et juin ont bouleversé les hiérarchies institutionnelles et implicites, en particulier du milieu littéraire. Puis Jean-Marie Durand, des Inrecuptibles, nous présentera le numéro spécial de ce journal consacré à la place de la musique et plus largement de la culture dans cette année de révolte mondiale. Enfin, nous vous présenterons l'application mai 68 Retour au quartier latin, qui permettra à des auditeurs piétons de suivre les événements de mai en son immersif et en promenade autour de la Sorbonne avec un bon casque fermé, un téléphone intelligent et après avoir téléchargé l'application gratuite Easy Travel, vous partirez du 45 rue d'Ulm devant l'école normale supérieure pour écouter des témoignages, des analyses et des archives et approcher au plus près dans un documentaire itinérant justement ce qui s'est passé en 1968. C'est une première que nous avons conçue avec le réalisateur de la Fabrique de l'Histoire, Renaud Dalmar. Et puis nous terminerons cette émission par « C'était à la une », donc la mort de Salin Gros aujourd'hui, le 19 novembre 36, c'est dans le populaire. Bonjour à vous, Éric Ménard, nous vous retrouvons, vous êtes historien spécialiste de l'histoire de l'esclavage et nous vous retrouvons à propos d'une série dont vous avez été avec d'autres historiens et en particulier avec Catherine Kokri-Vidrovitch, conseiller historique. Cette série, on pourra la voir donc le 1er mai sur Arte, toute la soirée, quatre volets sur les routes de l'esclavage. Une série très originale réalisée par Daniel Cattier, Juan Relas, Gégelas, et Fanny Glissant, qui sera donc diffusée sur Arte, qui nous raconte la longue histoire de l'esclavage. Et c'est peut-être en cela déjà qu'elle est très particulière. Elle part du 5e siècle de notre ère jusqu'à aujourd'hui. Et elle nous raconte tous les aléas de ce qui peut apparaître comme un phénomène mondial, mais unique, alors qu'il y a évidemment beaucoup de différences entre tous ces esclavages, Éric Ménard.
Oui, bonjour. Effectivement, je pense que l'intérêt de cette série, c'est de couvrir, comme vous l'avez dit, sur une très longue période et aussi sur de grands espaces, une première mondialisation, et de suivre à travers ce développement de l'esclavage ce qui continue à peser encore aujourd'hui dans nos sociétés. Et malheureusement, je dirais que l'actualité nous l'a rappelé, avec la Libye, mais aussi avec les violences dont sont victimes des populations afro-américaines au sens large, le Brésil, les États-Unis. Et même si, et heureusement, les formes sont actuellement moins violentes en France, on sait aussi que cette question pèse du point de vue mémoriel, mais aussi du point de vue politique, dans notre société. Donc oui. L'intérêt de mon point de vue de ce film, auquel je n'ai que modestement participé, c'est justement de montrer l'épaisseur à la fois chronologique de cette histoire et son importance à l'échelle mondiale, puisque l'Afrique est évidemment au cœur de cette histoire. Mais on va aussi, ça concerne bien évidemment aussi l'Europe, le continent américain et l'océan Indien.
Oui, et ce qui est très intéressant effectivement, c'est qu'on commence très tôt. On commence à la fin de l'Empire romain. On évoque évidemment l'esclavage qui existait déjà dans ce même Empire romain. Et puis on avance progressivement selon les volets de cette série justement vers l'esclavage tel qu'il est pratiqué en terre d'islam. Qui sont les esclaves? Catherine Kokri-Vidrovitch nous rappelle bien que les premiers esclaves sont des esclaves la plupart du temps blancs, puisqu'ils viennent pour beaucoup d'entre eux d'un espace caucasien, où ils ont été raptés pour pouvoir devenir des esclaves, puis ensuite comment le transfert du centre du monde musulman de Bagdad vers le Caire va changer encore les choses en s'intéressant effectivement au continent africain. Ce qui est très intéressant, c'est que une belle série documentaire, esthétiquement parlant, qu'on a reconstitué non pas comme on le fait parfois dans des documentaires fiction avec des acteurs, mais avec du dessin, certaines des séquences qui ne pouvaient être représentées. Mais aussi, c'est d'expliquer, de partir des routes, c'est-à-dire de partir de la géographie, Éric Ménard.
Oui, là, on est dans une belle tradition historiographique, et celle de la géohistoire. Il y a tout un travail sur les cartes, c'est-à-dire à partir de l'Atlas des esclavages de Marcel Le Rigné et de Bernard Guénot, qui sont des cartes animées. Et ce que je trouve très intéressant, c'est aussi de montrer des villes, de montrer des lieux, d'incarner à certaines mesures les traces de cette présence historique. Je pense notamment à ce que j'ai trouvé très intéressant, tout est intéressant, mais j'ai beaucoup apprécié le deuxième épisode, qui est consacré à la conquête portugaise, et à la façon dont les Portugais se sont insérés au fur et à mesure qu'ils découvraient, entre guillemets, le continent africain, les côtes du littoral africain, se sont insérés dans des échanges commerciaux. Au début, leur objectif était d'aller vers l'or, l'ivoire, et on voit comment ils se sont progressivement insérés, au fur et à mesure qu'ils avançaient le long des côtes africaines, ils se sont insérés dans des échanges intra-africains, et ils sont devenus eux-mêmes, à un moment, les pourvoyeurs d'esclaves pour les Akans, pour la côte de l'or. Et on voit progressivement cette mise en place d'un système d'exploitation esclavagiste qui va se, comme un cancer, qui va se métastaser et qui va finir par gagner les côtes américaines, notamment par le Brésil.
Ce qui est effectivement très intéressant, c'est qu'il y a un principe. Qu'est-ce que l'esclavage, pourrait-on dire? Il y a les mutations de ce même esclavage dans une série aussi riche que celle-ci, Les routes de l'esclavage sur Arte. C'est toujours contextualisé. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines d'historiens du monde entier qui ont participé à cette série parce qu'ils ont été interviewés, et chacun d'entre eux apporte sa pierre. Ils peuvent être américains, ils peuvent être africains, ils peuvent être historiens du monde arabe vivant dans le monde arabe ou à l'extérieur, ils peuvent être européens. Et tout ce concours de chercheurs nous explique qu'il y a à chaque fois des contextes nouveaux, qu'il y a des changements qui sont dus à la fois à la société dans laquelle se met en place cet esclavage ou se transforme cet esclavage, aux circuits commerciaux, à la question, comme vous l'avez dit très bien pour Saint-Thomé par exemple, à la question de comment on devient esclavagiste alors qu'on n'en avait pas la volonté au tout départ.
Alors, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos du mot esclavage lui-même, puisque je le constate en tant que professeur. Mes étudiants associent spontanément, quand on aborde, ou les élèves, quand on aborde la question de l'esclavage, ils pensent aux Noirs. Alors, il est vrai que l'objectif de Fanny Glisson, il est clair, hein, c'est de centrer l'histoire de l'esclavage ou des esclavages sur l'Afrique, de montrer le rôle central, y compris du point de vue économique de l'Afrique au 14e, 15e, 16e siècle, et évidemment le rôle central des Africains dans cette histoire. Mais il y a aussi, je pense, ce qui est important dans ce film. Alors, je voulais revenir sur la question du mot esclavage, puisque slave, on le sait très bien, ce sont d'abord les Slaves. Et à partir du 8e siècle, va se construire la racialisation de cet esclavage, puisque le mot nègre, qui désignait au départ des populations noires africaines, va devenir synonyme d'esclave. Je pense qu'on n'est pas encore sorti totalement de cette question-là, puisque je le constate, je vous dis, avec des élèves ou avec des étudiants, quand on aborde la question de l'esclavage, on associe l'esclavage aux populations noires. Et ça, c'est un vrai problème contemporain. Et je pense, le paradoxe, c'est comment à la fois parler de cette histoire et comment en sortir.
Alors, prenons cet exemple dont vous parliez tout à l'heure et qui mérite d'être précisé pour que nos éditeurs comprennent bien l'ambition d'une telle série documentaire, l'exemple de Saint-Thomé. Alors voilà, donc les Portugais qui partent de chez eux, qui récupèrent des premiers esclaves sur les côtes sénégalaises et puis un peu plus loin, qui les ramènent à Lisbonne, qui font d'ailleurs de Lisbonne une ville où vivent ensemble, dès le 15e siècle, des Européens et des Noirs africains qu'on a ramenés comme esclaves, dans les familles en particulier. Et puis, Ils avancent, ils découvrent le royaume du Congo, ils découvrent une île déserte très riche dans le golfe du Gabon qui s'appelle l'île de Saint-Thomé et qui le baptise l'île de Saint-Thomé et qui va devenir une sorte de lieu pivot cet esclavage qui est déjà triangulaire avant d'avoir traversé l'Atlantique, Éric Ménard.
Alors Saint-Thomé est très intéressant et Antonio Mendes a travaillé cette histoire pour montrer comment Saint-Thomé devient dans un premier temps un lieu de passage et un relais, y compris pour les marins. On y importe, entre guillemets, évidemment, je suis désolé d'employer cette expression, mais c'est la réalité elle-même qui m'amène à parler ainsi. On y importe des esclaves qui vont être vendus par les Portugais au royaume d'Akan pour devenir des mineurs, pour travailler dans les
mines d'or.
Pour l'or. Et puis, avec la découverte, encore entre guillemets, l'arrivée des Portugais au Brésil, cette île va servir dans un premier temps, va être un laboratoire dans lequel on va implanter la culture de la canne à sucre. Et ensuite, et ça aussi, c'est très intéressant, c'est que d'emblée, et ça, c'est une des constantes de cette histoire de l'esclavage ou des esclavages, c'est qu'il y a eu des résistances. Et première forme de résistance, c'est le fait que les Africains vont fuir les plantations, ce qu'on appellera par la suite le marronnage. Mmh. Et puis, ils vont finir par se révolter et ça va obliger les Portugais à abandonner l'exploitation sucrière sur l'île de Saint-Thomé. Mais le système va se métastaser puisqu'ils vont exporter avec le savoir-faire qu'ils ont acquis, ils vont exporter cette exploitation coloniale sucrière vers les côtes brésiliennes. Et par la suite, les Brésiliens eux-mêmes vont exporter ce savoir-faire, notamment un nombre de colons brésiliens, vont exporter ce savoir-faire vers les îles de la Caraïbe.
C'est cela qui est extraordinaire, c'est ce que vous aviez dit en ouverture, Éric Ménard, pour cette série Les routes de l'esclavage, c'est le caractère mondialisé d'une telle analyse. On est dans un moment où on peut se permettre cela, et qui d'une certaine façon n'était pas favorable, le moment n'était pas favorable il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, il y a des chercheurs sur cette question de l'esclavage un peu partout, et tous ces chercheurs peuvent faire converger leurs recherches justement pour créer le débat autour de cette mondialisation de l'esclavage, Éric Ménard.
Alors effectivement, là, on répond, je trouve que il y a une réponse à cette mondialisation, à cette longue mondialisation, par une historiographie qui se mondialise. C'est-à-dire que c'est essentiel d'échanger entre historiens, à la fois sur les traites, qui sont un phénomène majeur, y compris du point de vue démographique, et sur les enjeux économiques, culturels et sociaux. Et des regards croisés d'historiens africains, d'historiens européens, d'historiens américains au sens très large, contribuent effectivement permettent d'avancer sur la compréhension d'un système particulièrement complexe.
Et alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'une fois que ça sera diffusé sur Arte, puis ensuite repris en VOD et en DVD, une fois la diffusion accomplie, donc c'est le 1er mai sur Arte, on peut le regarder pendant une soixantaine de jours sur le site d'Arte, et puis ensuite il y aura donc une commercialisation. Qu'est-ce qu'on peut en faire d'une telle série? Vous êtes spécialiste de la question de l'enseignement, et en particulier l'enseignement de l'histoire de l'esclavage. On approche du 10 mai, des commémorations autour de cette question-là. Est-ce qu'on peut l'utiliser en classe à une telle série, ou est-ce qu'elle est difficile à utiliser? Est-ce que les professeurs s'emparent de cette question? Ce sera ma dernière question avec vous, Éric Ménard.
Et j'espère qu'ils s'en empareront. Toutefois, ça sera difficile pour deux raisons. La première raison, c'est que cette partie du programme, malheureusement, en tout cas pour le premier degré, a été réduite à la portion congrue. Dans le second degré, en collège et en lycée, notamment dans l'enseignement professionnel, il y aura possibilité d'utiliser cette série d'un point de vue pédagogique. Je pense aussi que cette série va être utilisée par des relais associatifs qui sont très demandeurs pour contribuer à la connaissance de cette histoire qui nous concerne tous et qui concerne plus particulièrement la mémoire d'un certain nombre de concitoyens.
Merci beaucoup, Éric Ménard, d'être venu nous présenter justement cette série qui s'appelle Les routes de l'esclavage. Vous avez été avec Catherine Cochry-Vidorvitch, conseiller historique sur cette série, signée Daniel Cattier, Juan Gelas et Fanny Glissant, diffusée donc sur Arte mardi prochain, le 1er mai, à partir de 20h50.
Écoutez, ce grand journal qu'est l'Humanité. Alors, de faux révolutionnaires à démasquer. Ça, c'est le titre. Comme toujours, lorsque progresse l'union des forces ouvrières et démocratiques, les groupuscules gauchistes s'agitent dans tous les milieux. Malgré leurs contradictions, Ces groupuscules, quelques centaines d'étudiants, se sont unifiés dans ce qu'ils appellent le mouvement du 22 mars Nanterre, dirigé par l'Allemand Cohn-Bendit.
Le 3 mai, nous nous réunissons à un groupe d'étudiants dans la cour de la Sorbonne, des étudiants de la Fédération des groupes d'études de lettres, qui est la division à l'intérieur de la Faculté des Lettres de l'Union Nationale des Étudiants de France.
Alain Schnapp, historien.
Pour protester parce que les jours précédents, nos Ronéos ont été brûlés par des militants d'Occident qui viennent se venger d'une improbable attaque qui aurait eu lieu contre l'ambassade du Sud-Vietnam à Paris.
Ces faux révolutionnaires doivent être énergiquement démasqués car objectivement, ils servent les intérêts du pouvoir gaulliste.
Et au même moment, à Nanterre se réunit le mouvement du 22 mars pour protester contre le déferment par l'université de Nanterre d'un certain nombre d'étudiants devant le conseil de discipline de l'université de Paris. Donc les deux mouvements ne sont pas synchronisés, mais ont lieu en même temps. Et brusquement, on apprend que les gens de la faculté de droit toute proche, un groupe de militants d'Occident, veulent venir dans la Sorbonne.
Ça c'est signé. C'est signé Georges Marchais.
J'arrive à la Sorbonne. Je suis à la Sorbonne. Je rentre à la Sorbonne.
Pierre Rousset.
Il y a un petit meeting qui se tient dans la cour de la Sorbonne. Je l'écoute. Je rentre et je ne viens pas pour une activité politique. Je viens pour chercher un polycopier, parce que je veux préparer mes examens en catastrophe. Parce que ça fait des mois et des mois qu'on essaye d'ouvrir, de créer l'étincelle qui allumera le feu à la plaine. Et on n'a pas réussi. On était convaincus que le mouvement étudiant pouvait être une étincelle, et notamment qui ait un écho dans la jeunesse ouvrière qui commençait à mener des grèves, etc. Mais pour être une étincelle, il fallait qu'on ait une confrontation avec la police. C'est comme ça qu'on vit l'étincelle. Toutes les médias en parlent, il y a l'acte, ils sont en acte. Donc pendant des mois, on sillonne tout Paris pour essayer de créer cette étincelle. Et on a en face de nous un préfet très malin, très intelligent, Grimaud, qui a très bien compris l'affaire. On ne peut jamais faire face à la police.
Nous avons manifesté et on a appliqué les mesures Fouché, on a appliqué les mesures Percy. Aujourd'hui, l'administration universitaire s'allie avec le pouvoir.
Voilà, c'est un extrait de ce que vous pourrez entendre si vous vous rendez demain devant le 45 rue d'Ulm, à partir de demain, puisque ça sera disponible pendant de longues semaines, justement, sur le site Easy Travel. Vous téléchargez une application qui s'appelle Easy Travel, EZITRAVEL, sur laquelle il y a une balade qui s'intitule Mai 68, retour au quartier latin, une balade en son immersif. Vous prenez un bon casque et vous marchez à partir du 45 rue d'Ulm, devant l'école normale supérieure, jusqu'à la Sorbonne, puis ensuite vous remontez jusque au théâtre de l'Odéon et pendant une heure un quart, vous avez un son immersif qui vous conduit dans les événements de mai 68 avec des lectures de comédiens, mais également, on l'a entendu, des témoignages comme celui d'Alain Schnapp, historien, mais qui était aussi un des participants à mai 68, ou encore des analyses d'historiennes et d'historiens et d'autres témoins. Et là, on entendait justement un extrait qui nous permet de vous dire bonjour, Boris Gobille.
Bonjour.
Puisque il y avait dans cette application, dans ce récit que nous faisons avec Renaud Dalmar de mai 68 autour du quartier latin, il y avait ce qu'on entend, la lecture de l'article de Georges Marchais, le 3 mai dans l'Humanité, qui parle de faux révolutionnaires à propos de ce qui se passe à Nanterre et qui provoque l'ire de beaucoup de ceux qui sont justement soit à Nanterre, soit à la Sorbonne, vis-à-vis du Parti communiste. Ils sont déjà très informés contre le Parti communiste depuis l'année 65-66 pour beaucoup d'entre eux. La façon dont le Parti communiste a traité ceux qui n'étaient pas d'accord avec la ligne officielle du parti. Et les voilà donc vent debout contre cet article de Georges Marchais qui a de l'importance dans votre livre Le mai 68 des écrivains, crise politique et avant-garde littéraire, Boris Gobille.
Oui, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il est finalement la traduction d'un processus qui a, comme vous l'avez souligné, 2 ou 3 ans déjà d'existence au minimum. C'est-à-dire l'histoire de la liquidation des dissidences au sein de l'Union des étudiants communistes ou des groupes qui n'étaient pas d'accord avec la ligne du parti, qui vont être exclus et vont se définir ensuite. Alors les uns comme trotskiste, hein, c'est la JCR, et puis les autres comme maoïste, ce sera l'UJC-ML, qui deviendra plus tard, après 68, la gauche prolétarienne. Et cet antagonisme, il est très fort. Puisqu'au fond, c'est les groupes, le groupuscule gauchiste, dont les effectifs sont pas négligeables, mais qui sont évidemment, qui n'ont rien à voir avec ceux du Parti communiste, disputent quand même au Parti communiste le monopole, enfin, en tout cas, la représentation légitime, disons, du sujet révolutionnaire qu'est le prolétariat. Et le Parti communiste ne veut pas en entendre parler, en particulier Marchais. Et cet article a cristallise en quelque sorte cet antagonisme entre le Parti communiste et les étudiants gauchistes.
Alors, dans cette balade au quartier latin, balade en son immersif, et donc ce documentaire itinérant qui est une première pour Radio France et pour France Culture est une première en général dans le domaine de la radio où on avance avec un casque sur les oreilles en écoutant un documentaire tout en reparcourant les rues du quartier latin et en découvrant le décor d'aujourd'hui avec le son d'hier. Eh bien nous partons de l'école normale supérieure et des cours de Louis Althusser. C'est aussi très important que de rappeler effectivement la place que tient tiennent les marxistes et les marxismes dans ce mouvement de mai 68, qui est au cœur aussi de votre livre sur le mai 68 des écrivains, Boris Gobi, parce qu'il y a des marxismes différents qui s'affrontent avec un espace politique très large pris par ces marxismes, mais néanmoins beaucoup de scissions, beaucoup de divisions, beaucoup d'oppositions entre trotskistes, maoïstes, maoïstes pro-chinois, maoïstes qui ne le sont pas, etc., etc.
Oui, il y a effectivement des clivages idéologiques très forts. Alors Althusser avait une influence quand même très grande sur ces étudiants qui vont, pour un certain nombre d'entre eux, fonder les cahiers pour l'analyse, les cahiers marxistes-léninistes, et puis la gauche, enfin l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, l'UJCML, même s'ils vont le critiquer ensuite, parce que c'est quand même un personnage étrange, Althusser, c'est un personnage qui est membre du Parti communiste, qui a une certaine influence au sein du Parti communiste, auprès d'un certain nombre d'intellectuels, mais qui est très, enfin dont la direction peut se méfier de temps en temps aussi, et qui est dans un combat, disons, dans une lutte avec Roger Garaudy pour savoir quel est le grand intellectuel du Parti communiste. Et donc ces différences idéologiques, on les retrouve chez les intellectuels et chez les écrivains, parce que parmi ceux qui se mobilisent le plus tôt, le plus précocement aux côtés du mouvement étudiant, on a des gens qui viennent du surréalisme, qui viennent des temps modernes de Sartre, qui viennent en réalité aussi d'une histoire de rupture avec le Parti communiste. On a d'anciens communistes qui ont quitté le parti entre 49 et 56, 56 étant évidemment lié à la répression de l'insurrection hongroise, et qui vont entrer dans un rapport de défiance à l'égard du Parti communiste. Et finalement, dans un rapport qui peut être qualifié de gauchiste, disons, à l'époque, à la question révolutionnaire. Et ils sont très hostiles au Parti communiste. En revanche, ils vont être très sensibles, finalement, à ce mouvement étudiant pour son numérosité institutionnelle, par son hostilité, justement, à l'égard du Parti communiste. Et ce sont ceux qui vont se mobiliser le plus tôt. Alors, on retrouve Sartre, on retrouve Duras, on retrouve Anthelme, Blanchot, Claude Roy, enfin voilà, tout un ensemble d'intellectuels et d'écrivains qui ont traversé cette période d'engagement du côté ou à côté des marxismes.
Alors si on a choisi cette partie, de vous faire écouter cette partie du documentaire itinérant que nous avons réalisé avec Renaud Dalmar, qui se passe à la Sorbonne, c'est parce que la Sorbonne compte beaucoup dans votre livre, et en particulier pour deux événements que vous nous racontez et qui sont successifs dans ces amphis de la Sorbonne. La venue de Louis Aragon, le 9 mai, je crois, et la venue de Jean-Paul Sartre, le 20 mai, dans ces mêmes amphis de la Sorbonne. Et tous les deux sont des dinosaures, pourrait-on dire, de la vie intellectuelle et littéraire française, et ils n'ont pas le même accueil.
Pas du tout, effectivement. Aragon vient dans la cour de la Sorbonne le 9 mai pour discuter avec les étudiants qui sont réunis là par un meeting de l'UNEF, et il vient apporter son soutien très clairement, qui va se concrétiser d'ailleurs par un numéro spécial des lettres françaises le 15 mai, où il va donner la parole sans aucune censure aux étudiants, mais il est très mal accueilli parce qu'il est pas vu comme le grand écrivain qu'il est également, ou l'ancien surréaliste qu'il est également, mais comme le membre du comité central du Parti communiste, et donc le représentant du Parti communiste, et il est fortement chahuté à ce titre-là, et il a beau s'en défendre et dire « mais moi je suis venu vous apporter mon soutien et je vous ouvrirai les colonnes des lettres françaises », il est relativement mal reçu en tant que représentant du Parti communiste. Sartre n'a évidemment pas cette espèce de défaut congénital aux yeux des gauchistes, mais il aurait...
Oui, il n'est pas très bien accueilli dès le départ. Quand il arrive, il y a quelques huées, mais il retourne l'Assemblée.
Pour voilà, alors parce que la situation a changé aussi entre le 9 et le 20 mai. À la fois, il n'a pas ce défaut congénital d'être membre du Parti communiste comme Aragon, mais en même temps, il intervient le 20 mai dans la Sorbonne. Or, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu généralisation de la grève, et on est entré dans une période qui commence à ressembler à une situation potentiellement révolutionnaire. Et il se passe quelque chose pour les intellectuels, c'est qu'il y a une extension de la critique anti-autoritaire à l'autorité de l'auteur. Toutes les autorités symboliques sont passées au filtre de la critique, au crible de la critique, et il se passe quelque chose qu'on pourrait appeler une destitution symbolique. Donc Sartre arrive... moins lesté d'un déficit que Aragon, mais il arrive dans une période où toutes les autorités sont critiquées. Donc c'est pas simple pour lui quand même. Mais il va avoir cette habileté de se mettre à l'égalité, à égalité, comment dire, se faire égal des contestataires, et c'est ce qui marche bien.
C'est-à-dire que lui, qui est un maître à penser, va se considérer, enfin, du moins se représenter comme n'étant pas un maître à penser. Il va valoriser l'extension du champ des possibles, dites-vous, Boris Gobille, dans votre livre sur le mai 68 des écrivains. Et à partir de là, eh bien, il va rentrer dans cette nouvelle norme qui est en train de se créer pour les écrivains. En mai-juin 68, c'est le cœur de votre travail, cette idée, effectivement, eh ben, qu'il faut écrêter, décapiter, qu'il faut que, par exemple, le Comité national des écrivains créé à la Libération et qui a longtemps eu un magistère moral sur le milieu des lettres, qui a été étudié en particulier par Gisèle Sapiro, eh bien, ce Comité national des écrivains va quasiment se suicider en direct pendant mai 68, ne va plus avoir aucune audience, parce qu'il y aura d'autres instances qui vont remplacer les instances traditionnelles de représentation des écrivains dans la société française, Boris Gobille.
Oui, tout à fait. Alors Sartre, effectivement, se met, disons, dans la peau d'un contestataire et à égalité. Il n'est pas le grand philosophe et celui qui a refusé le prix Nobel, etc. Il est un contestataire comme les autres, d'une certaine manière. Il le fait le 20 mai de deux manières, en intervenant à la Sorbonne, mais aussi parce que le 20 mai, c'est la publication de son entretien avec Daniel Cohn-Bendit dans le Nouvel Observateur, qui est un entretien formidable, parce que, en fait, c'est plutôt lui qui interviewe Cohn-Bendit que l'inverse. Donc il a cette capacité à capter cette destitution symbolique de toutes les autorités, cette grande demande d'égalité, en quelque sorte, dans la prise de parole. Les profanes, les anonymes ont tout autant d'autorité à prendre la parole que les grands intellectuels. Et c'est ce qui va frapper les avant-gardes de plein fouet et permettre la naissance de nouveaux groupes, en quelque sorte. Deux en particulier, le 18 mai à la Sorbonne, à l'Institut de philosophie de la Sorbonne, se crée un comité d'action étudiant-écrivain.
Le CAAEE.
Voilà. Alors il y avait le terme révolutionnaire au départ, puis il n'a pas été retenu ensuite. Et il est animé par Maurice Blanchot, Marguerite Duras, Dionis Mascolo, des surréalistes comme Jean Schuster, etc. Et c'est un comité qui est assez fascinant parce que ils vont pratiquer une sorte d'abolition d'eux-mêmes comme auteurs. C'est-à-dire qu'ils vont préconiser un communisme d'écriture, une écriture collective et anonyme, en finalement renonçant à leur privilège d'auteur. Et un autre groupe qui se crée juste trois jours après en occupant, alors c'est un autre mode d'action, le comité d'action crée, ce sont des intellectuels qui créent un comité d'action, forme très répandue en mai 68, et l'Union des écrivains se crée le 21 mai 68 en occupant, alors l'occupation est un autre mode d'action très répandu en 68, en occupant le siège de la Société des gens de lettres, voilà. Et ils vont essayer de réfléchir au statut de l'écrivain dans une société éventuellement socialiste.
Oui, et donc on va aussi développer une union des écrivains à partir du 21 mai avec un appel de l'union des écrivains. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle génération qui prend la main. Cette génération est encore active pour beaucoup d'entre eux. Il y a Guyotat, il y a Jacques Roubaud, Maurice Roche, Monique Wittig, qui ensuite participera à tous les combats du féminisme dans les années 70, Jean-Pierre Fay et d'autres, qui vont donc se lancer, en étant plus jeunes que ceux dont on a parlé auparavant, dans la défense d'une identité nouvelle, pourrait-on dire, de ce qu'est être un écrivain dans cette société de 1968 et ensuite des années 70.
Oui, tout à fait. Ils ont, en quelque sorte, une fenêtre qui s'ouvre devant eux, puisque l'abolition comme ça des grandes autorités fait que lorsque vous êtes un jeune écrivain, ou Jean-Pierre Fay a quand même déjà une certaine renommée, mais d'autres sont vraiment des entrants dans le champ littéraire. Je pense à Jacques Roubaud, par exemple. Ça date de la publication de son premier recueil de poésie en 67. Ils peuvent entrer en action parce que, en quelque sorte, les possibilités d'action sont plus obstruées par la génération antérieure, qui est plus reconnue, plus consacrée qu'eux.
Et une génération antérieure qui fait son autocritique aussi, ça fait partie aussi de ce mouvement de mai 68. Vous rappelez les mots de Maxwell Fouché, qui quand même est un grand résistant, fondateur de la revue Fontaine, qui le 20 mai, à la Sorbonne, dit à ceux qu'ils auront devant lui, ses étudiants, qu'il est le représentant d'une génération qui a fait faillite. Je vous supplie, dit-il aux étudiants, de ne pas faire faillite. C'est extraordinaire, une phrase comme celle-ci.
Oui, c'est extraordinaire, parce que là, il y a une inversion du rapport générationnel qui est formidable. Enfin,
c'est la génération de la résistance, tout de même. C'est ceux qui ont pris les armes, qui ont combattu, qui disent aux autres, ne faites pas faillite comme nous l'avons fait ensuite.
Voilà, parce que je pense que ce que Maxwell Fouché a en tête, c'est que l'engagement dans la résistance était un engagement qui, évidemment, était un engagement pour la défense du pays, mais un engagement qui avait, en tout cas pour certains, une vocation plus grande, qui était aussi de provoquer un changement radical de société à la libération. Et donc, le sentiment que cette génération a fait faillite l'amène à, en quelque sorte, donner les clés de la transformation à une nouvelle génération, en lui demandant effectivement ne faites pas faillite comme nous. C'est un propos saisissant, effectivement.
Alors, ce qui est quand même extrêmement intéressant dans votre travail, Boris Gobie, c'était votre thèse, le mai 68 des écrivains, crise politique et avant-garde littéraire chez CNRS Éditions, c'est que vous venez jusqu'à aujourd'hui et vous nous dites, et on va peut-être conclure notre séquence sur cela, ce qui est né ou pas de cette floraison de mai 68, parce que tout compte fait, le statut d'auteur qui était banni, qu'il fallait renverser. On voit bien que la vie littéraire n'a pas beaucoup changé, que les Goncourt et les prix sont toujours là et qu'il y a toujours le statut d'auteur. Qu'est-ce qui a changé peut-être dans cette volonté justement d'acquérir des droits, par exemple, en tant qu'écrivain, qu'on n'avait pas forcément auparavant ?
Alors, il y a d'abord il y a quand même une traduction très concrète de mai 68 et du travail porté par l'Union des écrivains, rejointe ensuite par la Société des gens de lettres au début des années 70. C'est une réflexion sur le statut d'auteur, parce qu'on a peine à l'imaginer, mais à l'époque, vous versiez des cotisations à des caisses différentes selon le support dans lequel vous publiez. Ou pas publiez d'ailleurs. Il y avait les revenus du livre, mais lorsque vous écriviez une pièce radiophonique, vous cotisiez à une autre caisse, mais vous n'étiez ayant droit nulle part, en quelque sorte. Mmh. Et en fait, le travail de l'Union des écrivains va être de réunifier le statut d'écrivain, quels que soient les supports, et ça va donner lieu à la création, par une loi, d'un organisme, l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, qui, justement, consolide, en quelque sorte, ce statut d'auteur. Alors, on n'y voit pas complètement un paradoxe par rapport à la mort de l'auteur préconisée en 68. Dans la mesure où l'Union des écrivains voulait a enclenché son travail sur la base d'une nouvelle notion, c'était l'écrivain travailleur. Considérer l'écrivain comme un travailleur comme les autres, qui a des droits, qui cotise, bref, poser la question des conditions matérielles de la création littéraire, ce qui est une question profanatrice dans un champ littéraire où voilà, il y a encore les mythologies du créateur, éthéré, un peu inspiré comme ça. En revanche, effectivement, le statut symbolique de l'auteur n'a pas été perdu, il a été retrouvé d'une certaine manière, là, 68 ne s'est pas traduit dans les faits durablement. Voilà. Mais je pense que il faudrait regarder d'un peu plus près ce que les auteurs eux-mêmes ont fait de leur statut d'auteur. Il y a aussi pas mal de pratiques qui se sont inaugurées dans l'après 68, où l'auteur, en quelque sorte, descend dans les arènes. Moi, dans l'arène, je pense particulièrement aux ateliers d'écriture qui se lancent à partir des années 70,
absolument.
Enfin, qui se multiplient à partir des années 70. Et aussi une attention. Alors, il faudrait voir si c'est vraiment. Je suis pas sûr que ce soit une conséquence directe de 68, mais une attention aussi aux vies ordinaires. Voilà, et je pense que les vies minuscules de Pierre Michon,
bien sûr.
J'y pense parce que Pierre Michon dit dans un entretien que le 68, pour lui, ça a été un alibi en béton pour ne jamais entrer dans la vie civile, dit-il. C'est-à-dire pour assumer un destin littéraire. Voilà.
Merci beaucoup, Boris Gobie. Je rappelle que vous êtes auteur du mai 68 des écrivains, crise politique et avant-garde littéraire, mais aussi que vous avez coordonné avec deux autres auteurs, donc avec Christelle Dormoy-Rage-Ramanan et avec Éric Neveu, le mai 68 par ceux et celles qui l'ont vécu. C'est aux éditions de l'Atelier. C'était une bonne manière de conclure notre semaine consacrée à mai 68 dans la Fabrique de l'Histoire, puis de parler de cette application qui va donc être disponible à partir de demain. Rendez-vous demain devant le 45 rue d'Ulm, si vous voulez, avec votre casque et votre téléphone portable, écouter un documentaire itinérant qui est une première donc autour de mai 68. On en écoute un deuxième extrait.
Je me rappelle d'un type qui devait habiter rue Gay-Lussac, qui disait « Tiens, c'est ma bagnole !» et il se marrait. mais je suppose, je ne connais pas, qu'après il a dû voter à droite, quand tout s'est écroulé, il a dû voter à droite pour l'ordre, la sécurité, la police et tout. Mais là, il se marrait de voir sa bagnole brûler au milieu des barricades.
Écoutez les mots sur les murs.
Cours, camarade. Le vieux monde est derrière toi.
Descendez la rue Gay-Lussac jusqu'au gros carrefour que vous traverserez pour rejoindre le jardin du Luxembourg.
Bernard Nicou,
Lucien Biro,
Pierre Janas,
Bernard Valette,
Jacques Rousseau.
Eh bien, il y a eu une nuit d'émeute au quartier latin. Vous le savez, si vous avez écouté France Inter, toute la nuit, nos reporters nous ont fait vivre les événements dramatiques du quartier latin, minute par minute. De 2h du matin à 6h du matin, le quartier latin a été transformé en un véritable champ de bataille. Actuellement, après cette nuit tragique, le calme revient peu à peu. Toute résistance du côté des étudiants semble avoir
voilà
cessé.
Voilà un nouvel extrait de notre balade sonore mai 68, retour au quartier latin, à télécharger sur le site Easy Travel, EasyTravel. Donc, évidemment, une application gratuite qui vous permettra de vous promener dans le quartier latin avec le son de 68, une randonnée sonore donc réalisée par Renaud Dalmar. Il faut remercier à la prise de son Bernard Laniel, Bruno Mourlan au mixage et au son immersif, justement Bruno Mourlan, la supervision technique qui a été faite par Hervé Desjardins, également Marion Dupont et Roman Chiban qui ont préparé donc la totalité de cette application pour nous, de ce travail documentaire en balade, Cécile Quéquinière ou encore Florent Latrive et toutes les personnes, je ne peux pas toutes les citer parce que c'est quasiment un générique hollywoodien, qui ont permis ce travail nouveau. Donc pour nous, à la radio, nous avons beaucoup apprécié de pouvoir imaginer, de vous donner le son en même temps que vous vous promenez dans le décor de ce quartier latin de 1968. Nous sommes avec vous, Jean-Marie Durand, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous voulions parler aussi, à propos de 1968, de ce numéro spécial des Inrock, Inrecuptible 2, consacré à 68, 12 mois de musique et de révolte. Alors évidemment, nous avons Janis Joplin en couverture, et puis également donc tous les noms de tous ceux et de toutes celles, Gainsbourg, les Pink Floyd, Françoise Hardy, François Truffaut ou encore, qui ont fait ce 68 dans le domaine culturel, parce que c'est surtout ce qui est retenu habituellement de 1968, cette transformation culturel, mais vous y allez très profondément, vous avancez très profondément dans cette histoire, dans ce numéro des Inrock, pour montrer combien il y a effectivement un mélange d'histoire politique et d'histoire culturelle.
Tout à fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance à garder comme souvenir, comme mode d'analyse de 68, l'idée précisément d'une révolte étudiante et de ce que Pierre Bourdieu appelait une humeur anti-institutionnelle, qui est d'ailleurs une humeur qui, on le raconte dans le magazine, mondialisé, enfin, qui n'est pas propre uniquement à Paris, au quartier latin en mai, mais dans tous les pays du monde, dans toutes les villes, ces révoltes étudiantes existent et souvent d'ailleurs très très réprimées. Mais ce qui nous a intéressé, c'est que finalement, c'est dépasser à la fois la mythologie du mai 68, comme nous on la connaît tous, et pour finalement raconter aussi une année de manière, disons, plus élargie, plus ample, précisément parce que cette humeur anti-institutionnelle a des échos dans la vie culturelle elle-même directement. On pourrait parler même dans le champ culturel d'une humeur presque anti-académique d'une certaine manière. C'est encore une année où les avant-gardes sont encore une notion qui a encore un sens. Aujourd'hui, peut-être 40 ans plus tard, l'avant-garde est un concept plus compliqué à définir, mais en 68, on est dedans. Et d'une certaine manière, bon, c'est une année très féconde dans la musique rock, parce que c'est vrai qu'il y a des albums clés qui ont été réalisés cette année-là, notamment le grand disque des Beatles, l'album Blanc, mais également l'album de Rolling Stones, Beggar's Banquet, et puis beaucoup d'autres. On fait une chronique de tous ces grands disques. Il y a Pink Floyd, il y a Jimi Hendrix, il y a Sly and the Family Stone, il y a Joni Mitchell. Bon, c'est une année, Johnny Cash, bien sûr. C'est une année où il y a de très très grands disques. Mais si vous voulez, au-delà de ça, il y a quelque chose comme un climat un peu nouveau qui est en train de s'installer dans le champ culturel. Par exemple, je peux prendre un petit exemple très très typique, ce qu'on appelle le nouveau journalisme, qui est une pratique comme ça, qui vient des États-Unis, naît cette année-là. C'est vraiment l'année où Norman Mailer commence à s'installer vraiment dans le paysage, disons, littéraire et journalistique américain. Donc, c'est typiquement ça. Après, il peut y avoir des petites choses comme un peu les Shadocks. Par exemple, les Shadocks, qui est une grande émission de télé, un peu bizarre, un peu comme ça, surréaliste, surgit à la télévision 68 aussi. C'est une année, en fait, où il se passe plein de choses. Une sorte d'humeur un peu comme ça, contestatrice. Et il y a une phrase de Michel de Certeau qui est très célèbre, que moi je trouve très très intéressante, qui dit qu'il essaie de comprendre ce qu'on appelle un événement, un événement politique, en 68. Il dit qu'un événement n'est pas ce qu'on peut voir ou savoir, mais c'est qu'il devient et entre parenthèses, et d'abord pour nous. Ouais. Et j'aime beaucoup ce et d'abord pour
ça,
nous.
Ça, c'est dans la prise de parole de Michel de Certeau.
Tout à fait. Exactement. Voilà. Et donc, il y a vraiment que 68, on peut dire qu'aujourd'hui, pour la génération qui n'ont pas connu, peut-être des gens qui ont 30 ans, 20 ans, ça peut paraître un peu comme une sorte de page d'histoire un peu brumeuse, un peu mythifiée, peut-être un peu, voilà. Et en même temps, c'est vrai quand on y réfléchit, il se passe tellement de choses. Non seulement, bon, d'un point de vue politique, vous avez parlé avec Boris Gobie, c'est une évidence.
Qui est présent dans le numéro, d'ailleurs. Boris Gobie est présent, voilà, avec une interview dans ce numéro.
Tout à fait, son livre est vraiment magnifique, c'est vraiment un très grand livre qui est une manière justement d'aborder 68 de manière un peu différente, et notamment par le rôle des avant-gardes, c'est vraiment un livre très important. Et donc c'est une année voilà où les mouvements féministes émergent, homosexuels, antiracistes, anti-autoritaires, on est vraiment dans un moment un peu particulier, c'est pour ça que c'est une année très très féconde, et aujourd'hui on fait ses échos, sont peut-être indirects, mais quand on voit le climat politique aujourd'hui, disons anti-autoritaire, la question de la verticalité et l'horizontalité qui s'affrontent, on voit bien aujourd'hui dans toutes les pratiques sociales militantes, on voit bien que 68 n'est pas qu'un souvenir comme ça juste de papier glacé, mais je pense que c'est encore une année qui aujourd'hui forcément fait écho à notre présent.
Oui, quand on aime la musique, on s'aperçoit, moi je ne me souvenais pas qu'effectivement At Folsom Prison de Johnny Cash était sorti en 68, que
Sorcerful
of Secrets de voilà, Sorcerful of Secrets de Pink Floyd aussi. Il y a donc des pages qui lui sont consacrées. Et puis évidemment, quand on aime Jimi Hendrix comme moi, on a un peu oublié que il y avait Electric Ladyland. C'était un titre, c'était un morceau, enfin c'était un disque de 1968. Comme vous l'avez dit, les Beatles avec le double album blanc, ou encore les Rolling Stones avec Beggar's Banquet. Et ce qui est intéressant aussi, ce sont les expériences qui sont des expériences transversales. Et vous y insistez, par exemple, avec le One Plus One de Godard, c'est-à-dire c'est comment un cinéaste de la Nouvelle Vague, fondateur de la Nouvelle Vague, va prendre à bras-le-corps, pourrait-on dire, cette nouvelle musique qui révolutionne la jeunesse dans le monde entier, à savoir celle des Rolling Stones, pour pouvoir les filmer.
Il va les filmer en studio pour faire un film assez étrange, qui est d'ailleurs pas un documentaire, comment dire, pour le coup vraiment pas académique, sur un groupe de rock en train d'enregistrer son album, mais finalement, à travers les Stones, Godard capte un air du temps, interfère comme ça des petites images de l'actualité, on voit que c'est un film très politique, il regarde les Rolling Stones comme presque un symptôme de son époque, et donc on voit bien qu'on est dans un moment très politique. D'ailleurs, Godard, c'est le moment où Godard vraiment bascule juste après dans un cinéma très très militant. Et donc on voit bien que cette année-là est traversée voilà par cette question-là sur notre actualité, sur la nécessité de changer de vie, comme on dit, changer la vie. Alors aujourd'hui, on parle plutôt de changer les formes de vie, mais c'est vrai que d'une certaine manière, on a aussi beaucoup, je pense, aujourd'hui appris de cette année-là, de ce point de vue-là.
Oui, ce qui est quand même très étrange, c'est qu'on se dit, on croit tout savoir sur mai 68. On croit déjà avoir tout lu, parce qu'évidemment, quand on fait des émissions d'histoire depuis 20 ans, on a déjà fait le 30e anniversaire, le 40e anniversaire, et nous en sommes maintenant au 50e anniversaire. Et en fait, on s'aperçoit en lisant un numéro comme celui des Inrock, donc consacré à la question vraiment culturelle, pourrait-on dire, Jean-Marie Durand, que dans les coins, on découvre des choses qui renaissent ou qui naissent alors qu'on ne les imaginait pas. Vous parlez de la musique tropicale, par exemple, à un moment,
le
tropicalisme et son développement dans ces années-là. Effectivement, ça nous parle maintenant parce qu'il y a un jeu, pourrait-on dire, sur cette la renaissance de cette musique dans des milieux qui aujourd'hui veulent s'en inspirer, pourrait-on dire, Jean-Marie Durand.
Tout à fait. C'est vrai qu'il y a vraiment il y a un héritage très très fécond de ce point de vue-là, mais on pourrait même le déplacer dans d'autres champs. Par exemple, je pense au monde de l'art, des arts plastiques, par exemple. Ce qui est intéressant avec 68, quand on s'interroge sur comment fonctionnait le monde artistique, notamment l'atelier des Beaux-Arts, dont en ce moment l'école des Beaux-Arts parle à travers une très belle exposition Image en lutte, on voit bien que les pratiques collectives, il y a vraiment l'idée que les artistes aujourd'hui travaillent à l'époque beaucoup en collectif, comme de la manière si l'anonymat devenait presque une évidence pour eux. Il y avait vraiment l'idée de d'effacer le nom de l'artiste solitaire, modifié,
la notion d'auteur aussi, comme on le disait.
Tout à fait. Et aujourd'hui, aujourd'hui en 2018, on voit bien que chez beaucoup de jeunes artistes, ces pratiques-là, même si elles sont pas mimétiquement, mécaniquement reproduites, mais elles s'inspirent un peu de ça, justement précisément dans la question des collectifs, la manière de travailler ensemble, la manière d'interroger aussi le monde, avec un regard très politique sur le monde. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui fait écho. Moi, je trouve que c'est très frappant. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'on est en train de reproduire des pratiques ou un ethos, c'est vraiment né en 68, mais en tout cas, d'une certaine manière, il existe. Il y a quelque chose comme ça qui fait écho en nous aujourd'hui, quand on s'interroge sur cette année 68. C'est pour ça que c'est une année passionnante, parce qu'on se rend compte que finalement, elle est vraiment une année vraiment qui nous accompagne aujourd'hui, même un peu indirectement, mais un peu loin.
Merci beaucoup Jean-Marie Dudrand d'être venu présenter ce numéro des Inrecuptibles 2, donc un hors-série qu'on trouve en kiosque en partenariat avec France Culture. Il coûte 8,90 €. Merci beaucoup et on continuera bien évidemment à vous lire dans les Inrecuptibles. Mais il est 9h52 sur France Culture et ailleurs d'ailleurs. Et à 9h52, il est l'heure de retrouver notre séquence habituelle. C'était à la une avec le site Rétro News de la Bibliothèque Nationale de France. Vous savez, un comédien, une comédienne qui lit un grand texte de presse des deux derniers siècles. Et aujourd'hui, c'est un texte du Populaire en 1936, La mort de Roger Salengro, qui fait la une.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le Populaire, jeudi 19 novembre 1936. Ils l'ont tué. Roger Salengro est mort. Il a mis fin à ses jours la nuit dernière. L'abjecte campagne de calomnie a brisé la force de résistance de ce vaillant socialiste, de cet héroïque soldat. La feuille infâme de la famille Chiap et ceux qui se sont solidarisés avec l'ignoble Carbuccia sont responsables de cette mort. Fascisme assassin. L'émotion est grande à Lille et dans le Nord. À Paris, règne une vive effervescence dans les milieux politiques et parmi les travailleurs. À la Chambre, même des députés de droite stigmatisent l'odieuse campagne menée contre Salengro et qui vient d'avoir un si tragique dénouement. Léon Blum, président du Conseil, accompagné de M. Violette, ministre d'État, et de Bédousse, ministre des Travaux publics, s'est rendu aussitôt à Lille pour saluer la dépouille mortelle de son collaborateur. Paul Faure, ministre d'État, et Raoul Aubeau, sous-secrétaire d'État à l'Intérieur, sont partis pour Lille dans l'après-midi. Le ministre du Travail, Jean Lebas, se trouve à Lille également.
L'abjecte attitude de certains étudiants camelots du roi. Des étudiants, ex-camelots du roi, qui fréquentent le foyer du duc de Guise, 19 rue des Grands Augustins, ont fêté, hier à midi, la nouvelle de la mort de Roger Salengro. À l'issue du déjeuner, ce fut en effet une tournée générale pour saluer la disparition de celui qui avait eu le courage de dissoudre les ligues factieuses. Tant d'abjections, tant d'ignominies se passent de commentaires.
La lettre de Roger Salengro à Léon Blum, le 16 novembre 1936. Mon cher Blum, ma femme est morte il y a bientôt 18 mois de la calomnie qu'on ne lui épargna pas et dont elle souffrit tant. Ma mère ne se remet pas des suites de son opération, et la calomnie la ronge jusqu'aux moelles. J'ai lutté de mon côté vaillamment, mais je suis à bout. S'ils n'ont pu réussir à me déshonorer, du moins porteront-ils la responsabilité de ma mort, car je ne suis ni un déserteur, ni un traître. Mon parti aura été ma vie et ma joie, mon affection au mien, mon souvenir au nôtre. À vous, ma reconnaissance, Roger Salengro.
La commission administrative permanente du Parti socialiste flétrit la campagne abjecte de la feuille infâme. Réunie hier soir à la maison du parti, la commission administrative permanente du Parti socialiste SFIO a adopté à l'unanimité le texte suivant. À bout de force, torturé et brisé par la campagne abjecte de l'infâme, Roger Salengro s'est donné la mort. Ils l'ont tué, comme ils ont tué Jaurès, aussi sûrement que s'il lui avait tiré 2 balles de revolver dans la tête. La vérité établie n'avait pas désarmé l'atroce calomnie. Le Parti socialiste pleure un homme qui n'a jamais failli à aucun devoir. Un de ses meilleurs militants. Mon parti aura été ma vie et ma joie. Telles sont les dernières paroles de celui que le parti n'oubliera jamais. Que les travailleurs se souviennent. Du fascisme, Roger Salengro doit être la dernière victime.
La feuille infâme ne paraîtra pas. Les typos ont arrêté le travail hier à 15h. La direction de Gringoire s'est rendue hier à l'imprimerie où le prochain numéro était en chantier. Elle a revu toutes les épreuves et en a retiré tous les textes concernant Roger Salengro, scrupule tardif et qui n'enlève rien à la terrible responsabilité de la feuille infâme. À 15h, les typos de Gringoire recevaient une communication du comité intersyndical du Livre parisien. Gringoire ne paraîtra pas. Les obsèques de Roger Salengro auront lieu à Lille dimanche à 14h.
Voilà donc pour ce C'était à la une. On peut retrouver l'article du Populaire sur Roger Salengro et sa mort donc sur le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Les textes étaient lus par Daniel Koenigsberg et Hélène Losseur dans une réalisation de Séverine Cassard.
Écoutez les mots sur les murs.
Elle est pas en Grèce cette année. Restez à la Sorbonne.
Voilà, nous avons parlé de mai 68 et aussi des routes de l'esclavage documentaire qui sera sur Arte, diffusé sur Arte le 1er mai prochain. Et rendez-vous demain donc à Beaubourg pour le week-end Imagine de France Culture au centre Pompidou autour de l'Esprit de Mai. Mais aussi à partir de demain, vous pouvez vous rendre quand vous voulez, à l'heure que vous le voulez, sur les trottoirs de la rue d'Ulm, devant le 45 rue d'Ulm, devant l'école normale supérieure, pour pouvoir écouter notre documentaire en balade, notre documentaire itinérant que vous téléchargez sur l'application Easy Travel, EasyTravel, une application gratuite qui vous permet de vous replonger dans l'esprit de mai 68. N'hésitez pas à y aller, s'il fait beau surtout, ça sera assez formidable. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Pierre Fossillon nous a accompagnés à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation.